Bonjour à tous. Cette semaine, pas mal de mauvaises nouvelles. La plateforme qui me sert à poster mes épisodes, sur toutes les plateformes, m'a envoyé 7 avertissements à propos de 7 épisodes, à propos de musique dont je ne détiens pas les droits, bien évidemment, et que pourtant je diffuse à l'intérieur des épisodes. Il m'est très difficile de remonter les épisodes et de supprimer ces musiques, qui parfois font partie intégrante de l'histoire. C'est pourquoi, dans un premier temps, j'ai été obligé de supprimer ces épisodes. Toutefois, ces épisodes n'ont pas totalement disparu, puisqu'ils sont toujours à la disposition de ceux qui sont sur mon Patreon, qui sont donc mes Patreonneurs, qui me supportent, et je les aime, et qui vous offrent l'épisode suivant. L'épisode suivant est la première partie d'un épisode qui en comptera deux, à propos de Sam Cooke, le plus grand chanteur de soul. Nous avons déjà parlé de la façon dont la musique connue sous le nom de soul a pris ses racines dans le gospel. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la première grande star de cette musique qui a débuté en tant que chanteur de gospel professionnel, plutôt qu'en tant que chanteur de rhythm and blues qui incluait un peu de gospel. Sam Cooke a été, à bien des égards, le musicien noir le plus important de la fin des années 50 et du début des années 60. Et sans lui, il est peu probable que nous ayons le genre soul tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais à ses débuts, il travaillait exclusivement dans le domaine du gospel. Et dans ce domaine, il était une sorte de superstar. C'est aussi quelqu'un qui, aussi admirable qu'il soit en tant que chanteur, l'était beaucoup moins dans son comportement envers les autres et notamment envers les femmes de sa vie. Et même si c'est quelque chose qui reviendra davantage dans les épisodes, cela vaut la peine d'être noté ici.
D'appareils électroniques de bonne qualité est vivement conseillé. C'est le moment d'écouter un dernier disque avant la fin du monde. Nous espérons vous faire découvrir ou redécouvrir des albums, des chansons, des artistes, des histoires, des anecdotes. Bon Jovi est-il vraiment bon? Y a-t-il un texte d'Indochine qui ne soit pas totalement inepte? Cat Stevens a-t-il un chat? Et pour un flirt avec toi, ferais-je vraiment n'importe quoi? Autant de questions auxquelles nous ne répondrons probablement pas. Bonne écoute!
Cooke a débuté adolescent dans les années 40 en se produisant dans des groupes de gospel autour de Chicago, qui, comme nous l'avons déjà dit, était la ville où toute nouvelle forme de gospel était créée à cette époque, sous l'impulsion de Thomas Dorsey. Dorsey, Mahalia Jackson et Sister Rosetta Tharpe vivaient et se produisaient tous dans la ville pendant les années de formation du jeune Sam. Mais la plus grande influence sur lui a été un groupe appelé The Soul Stirrers. Les Soul Stirrers avaient débuté en 1926 en tant que groupe dans ce qu'on appelle le style Jubilee, un style que les chanteurs noirs de musique spirituelle chantaient dans la période précédant la révolution du gospel par Thomas Dorsey. Il n'existe pas d'enregistrement des Soul Stirrers dans ce style, mais cet enregistrement est probablement le plus célèbre des enregistrements de Jubilee. Lorsque Thomas Dorsey et les musiciens qui l'entouraient ont commencé à créer la musique que nous considérons aujourd'hui comme du gospel, les Soul Stirrers ont changé de style et sont devenus l'un des premiers et des meilleurs créateurs de gospel dans ce nouveau style. à la fin des années 40, les Soul Stirrers signaient chez Specialty Records, l'un des premiers groupes à signer sur ce label, et enregistrent une série de classiques dirigés par R.H. Harris, considéré par beaucoup comme le plus grand chanteur de gospel de l'époque. In that awful, awful hour, when the doctor shakes his head, in that awful, awful hour, Mother Neal, round your bed will lack certain wind. No death surely will creep on in. Sam Cooke était l'un des sept enfants, fils du révérend Charles Cooke et de sa femme Annie May. Dès leur plus jeune âge, le révérend Cooke les avait formés comme chanteurs. Cinq d'entre eux se produisaient régulièrement dans les églises de la région sous le nom The Singing Children. Le jeune Sam a reçu de son père l'enseignement de la religion, mais il a également appris que la Bible n'interdit pas le succès dans le monde non religieux. En effet, le révérend Cooke lui enseigne deux choses qui compteront dans sa vie encore plus que la religion. La première, c'est que quoi que l'on fasse dans la vie, on essaie toujours de le faire le mieux qu'on peut. On ne fait jamais rien à moitié. Et si une chose vaut la peine d'être faite, elle vaut la peine d'être faite correctement et jusqu'au bout. Ça, ça va. La seconde, c'est que l'on fait tout ce qui est nécessaire pour s'offrir la meilleure vie possible et que l'on ne se soucie pas de savoir qui l'on piétine pour y parvenir. Et ça, c'est moins classe. Et c'est ce que Sam Cooke fera toute sa vie. Après avoir passé quelques temps avec son groupe familial, Cooke a rejoint un groupe de gospel nouvellement formé qu'il avait entendu chanter la chanson des Inkspots « If I Didn't Care » à une fille. Ce groupe s'appelait les Highway QCs et une version de ce groupe existe encore aujourd'hui. Sam Cooke n'est resté avec eux que quelques années, mais aucun enregistrement n'a été fait avec lui. Ils l'ont ensuite remplacé par un chanteur qui imitait Sam Cooke, Johnny Taylor, et en écoutant les enregistrements de Taylor avec le groupe, on peut se faire une idée de ce à quoi ressemblait le groupe lorsque Sam Cooke en était membre.
City shore, bright and fair. Lord, it was only a dream now.
Yeah, when I get there, all of my troubles will be over. Oh yes, mother will be waiting.
Pour ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas un homonyme. Il s'agit bien du même Johnny Taylor, celui qui enregistrera plus tard Who's Making Love pour le label Stax des années plus tard. Les autres membres du groupe étaient des chanteurs convenables, mais Sam Cooke était sans conteste la star des Highway QC. Creedle Copeland, un des membres du groupe, a déclaré plus tard « Tout ce que nous avions à faire, c'était de nous tenir derrière Sam. Notre titre de gloire était que la voix de Sam était si captivante que nous n'avions pas grand-chose à faire. » Le groupe ne gagnait pas beaucoup d'argent et il parlait sans cesse de s'orienter vers la pop plutôt que de chanter uniquement des gospel. Et Sam chantait certainement beaucoup de musique profane à son époque. Il aimait le gospel, comme tout le monde, mais il apprenait aussi de gens comme Gene Autry ou Bill Kenny des Inkspots, et il se transformait lentement en un chanteur qui pouvait faire absolument n'importe quoi avec sa voix. Sa plus grande influence reste R.H. Harris, des Soul Stirrers, qui était la personne la plus importante dans le domaine du gospel quartet. ce n'était pas seulement parce qu'il était le plus talentueux de tous les chanteurs de Quatuor, bien qu'il l'ait été, et cela en faisait certainement partie, mais c'est parce qu'il était co-leader d'un mouvement visant à professionnaliser le mouvement du Quatuor Gospel. Petite explication. Dans le gospel noir et dans le gospel blanc, appelé par euphémisme Southern Gospel, le terme quartet est utilisé pour des groupes qui peuvent compter 5, 6 ou même plus de personnes. Je me réfère généralement à tous ces groupes car je ne suis pas issu du monde du gospel, mais j'utilise ce terme, quartet, lorsque je parle de choses comme le National Quartet Convention et je peux parfois glisser entre les deux de manière interchangeable. Sachez simplement que si je mentionne les quartets, je ne parle pas seulement des groupes composés d'exactement 4 personnes. Harris a travaillé avec un chanteur moins connu, Abraham Battle, et avec Charlie Bridges, d'un autre groupe populaire, The Famous Blue Jays.
There will be glory, a wonderful glory, now, when we reach there, the there will be glory, a wonderful glory, praising Jesus ever. There will be glory, a wonderful glory, now, when we reach there, there will be glory, a wonderful glory, praising Jesus evermore.
Ensemble, ils ont fondé la National Quartet Convention, dont le but était d'essayer de prendre tous les jeunes quartets de gospel qui apparaissaient un peu partout et dont la plupart avaient une attitude assez désinvolte vis-à-vis de leur musique et de leur apparence sur scène, et de leur apprendre à se comporter d'une manière que les dirigeants de l'organisation considéraient comme appropriée pour un chanteur de gospel. Les Highway QC se sont joints à la convention, bien sûr, et ils se considéraient comme des disciples, en un sens, des Soul Stirrers, qu'ils considéraient à la fois comme leurs mentors et comme jalousant les QC, donc des concurrents. À l'époque, il était normal que les groupes de gospel se présentent les uns aux autres. Et s'ils étaient assez populaires, ils étaient invités à chanter et même parfois à prendre le contrôle du show. Cependant, lorsque les Highway QC se présentaient au concert des Soul Stirrers, ces derniers faisaient comme s'ils ne les connaissaient pas et ne les invitaient pas à monter sur scène. Ils ne le faisaient que si le public insistait absolument et limitaient alors leur prestation à une seule chanson. Du point de vue des Highway QC, la seule explication possible était que les Soul Stirrers étaient terrifiés par la concurrence. Une explication plus probable est qu'ils étaient simplement plus intéressés à montrer leur propre spectacle qu'à donner de la place à des jeunes qui pensent être des futures vedettes. D'un autre côté, pour tous les jeunes de Chicago, les Highway QC étaient clairement le groupe à battre. Et des gens comme un jeune chanteur nommé Lou Rawls les considéraient comme un modèle à suivre. Et bientôt, les QC se retrouvent sous la tutelle de R.B. Robinson, l'un des Soul Stirrers. Robinson les formait et les aidait à obtenir de meilleurs concerts, et les QC ont été convaincus qu'ils allaient maintenant connaître le succès. Mais il s'avère qu'en coulisses, il y a eu beaucoup de problèmes au sein des Soul Stirrers. Harris en était venu de plus en plus à se considérer comme la star du groupe et avait décidé de partir en solo. Il avait semblé probable pendant un certain temps qu'il le ferait, et lorsque Robinson avait semblé être le mentor des QC, ce qu'il faisait en réalité était de former leur chanteur principal, de sorte que lorsque Arash Harris finirait par partir, ils auraient quelqu'un pour prendre sa place. Les autres membres des Highway QC ont eu le cœur brisé, mais Sam a suivi les conseils de son père, le révérend Cook, qui lui a dit « Chaque fois que tu peux faire un pas de plus, un pas plus haut, ne t'inquiète pas pour les autres, ne t'occupe que de toi ». En mars 1951, Sam Cooke entre en studio avec les Soul Stirrers pour sa toute première session d'enregistrement, 3 mois seulement après avoir rejoint le groupe. Art Roop, le directeur de Specialty Records, n'est pas du tout impressionné par le fait que le groupe ait pris un nouveau chanteur sans le lui dire. Roop doit admettre que Cooke sait chanter, mais sa performance sur les premières chansons, bien qu'impressionnante, n'a absolument rien à voir avec celle de R.H. Harris.
The earth is in a blaze, the world is in a maze, the way of life today is
strange and odd would happen across the sea may come.
Vers la fin de la session, les Soul Stirrers insistent pour qu'ils enregistrent Jesus Gave Me Water, une chanson qui a toujours été un moment fort du set des Highway QC. Roop pense que c'est ridicule, les Pilgrim Travelers viennent d'avoir un succès avec cette chanson sur Specialty à peine 6 mois auparavant. Que pouvait bien faire Specialty avec une autre version de la chanson si peu de temps après? Mais le groupe a insisté et le résultat a été absolument incroyable.
Oh, Jesus gave me water, Jesus gave me water, Jesus gave me water, I wanna let his praises swell. Jesus gave me water, Jesus gave me water, Jesus gave me water, and it was not where there was a woman from Samaria came to the well to get some water. There she met a stranger who did a story tell that a woman dropped a pitcher.
À partir de là, Roop perd ses réticences, à la fois sur la chanson et sur le chanteur. Cela allait clairement être le prochain single du groupe. Le groupe lui-même n'était pas encore tout à fait sûr de Cook comme chanteur. Il était plus jeune que tout le monde, il n'avait pas encore l'assurance et le professionnalisme de Harris, mais il savait qu'ils avaient quelque chose avec cette chanson, qui est sortie avec Peace in the Valley sur la face B. Cette chanson avait été écrite par Thomas Dorsey 14 ans auparavant, mais c'était la première fois qu'elle était publiée sur disque, du moins par quelqu'un d'important. Jesus Give Me Water est un succès, mais les suites ont moins de succès et pendant ce temps, Art Roop commence à voir le potentiel commercial dans les styles de musique noire autres que le gospel. Même si Roop aimait le gospel, il s'est rendu compte lorsque Lodi Lodi Miss Clody est devenu le plus gros succès jamais enregistré par Specialty qu'il devait peut-être réorienter le label vers des musiques, on va dire, plus profanes plutôt que vers le gospel. Jesus Gave Me Water avait consolidé Sam Cooke comme chanteur principal des Soul Stirrers, mais alors qu'il chantait du gospel, il ne menait pas moins une vie assez peu pieuse. Il s'est marié en 1953, mais il avait déjà eu au moins un enfant avec une autre femme qu'il a abandonné avec le bébé. Et il couchait constamment à droite à gauche sur la route, et plus d'une fois, les femmes concernées sont tombées enceintes. Mais Cook traitait les femmes de la même manière qu'il traitait les groupes dont il faisait partie. Il les utilisait tant qu'ils ou qu'elles avaient un intérêt, puis les jetait immédiatement de côté dès qu'il n'en avait plus besoin, qu'elles étaient devenues inutiles ou gênantes. Pendant les années qui suivent, les Soul Stirrers ont une session d'enregistrement par an et le groupe continue de tourner. Mais il n'a pas de succès éclatant et même si d'autres groupes de specialty comme Lloyd Price, Jesse Belvin et Guitar Slim se vendent comme des petits pains. Les Soul Stirrers étaient plus populaires en tant que groupe de scène qu'en tant que groupe d'enregistrement. Et en écoutant l'enregistrement live que Bums Blackwell a produit en 1955, il est facile de comprendre pourquoi. Bums Blackwell est convaincu que Cook doit se lancer en solo et devenir un chanteur pop. Et il est plus convaincu que jamais lorsqu'il produit les Soul Stirrers en studio pour la première fois. La raison, en fait, était liée à la paresse de Cook. Ils sont allés en studio, il s'est avéré que Cook n'avait pas écrit la chanson. Et ils en avaient besoin. Le reste du groupe était en colère contre lui et il leur a simplement dit « Passez-moi une Bible ». Il a commencé à la feuilleter vite fait, à l'effleurer pour trouver quelque chose, et puis il a dit « Ça y est, j'en ai une ». Il a dit au guitariste de jouer quelques accords et il a commencé à chanter. Et la chanson qui en est sortie, improvisée à partir de sa tête, « Touch the Hem of His Garment », était parfaite telle quelle. Et le groupe l'a rapidement enregistrée.
Oh, there was a woman in the Bible days. She had been sick, sick so very long. But she heard my Jesus was passing by. So she joined the gathering throng. And while she was pushing her way through.
Blackwell sait alors que Cook a un talent très, très spécial. Et lui et le reste des gens de Specialty insistent de plus en plus à mesure que l'année 1956 avance pour que Sam Cooke devienne un artiste profane en solo, plus cool que de se produire dans un groupe de gospel. Les South Steerer ne vendaient que quelques dizaines de milliers de disques. Un chiffre raisonnable pour un groupe de gospel, mais pas vraiment le genre de chiffre qui permettrait de faire fortune. Pendant ce temps, des artistes inspirés par le gospel remportent d'énormes succès avec des chansons gospel auxquelles on a changé quelques mots pour en faire des succès vernaculaires. Il y a un épisode de South Park où ils se moquent de la musique chrétienne contemporaine, en disant qu'il suffit de prendre une chanson normale et de changer le mot « baby » en « Jesus ». Ou l'inverse. Au milieu des années 50, les choses semblaient aller dans le sens inverse. Les gens obtenaient des succès en prenant des chansons de gospel et en changeant le mot « Jesus » par « baby », ou presque. Le plus célèbre et le plus flagrant était Ray Charles, qui faisait des choses comme « This Little Light of Mine ».
Well, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, every day, every day.
Et le transformait en This Little Girl of Mine.
Do you know that this little girl of mine, I want you people to know, this little girl of mine, I take her everywhere we go. One day I looked at my suit was new, I looked at my shoes and they were too, and that's why I love this little girl of mine. Do you know that this little girl of mine makes me happy when I'm sad?
Mais il y avait un certain nombre d'autres groupes qui faisaient des choses beaucoup moins flagrantes. C'est ainsi que Sam Cooke s'est rendu à la Nouvelle-Orléans pour enregistrer dans les studios de Cosimo Matassa, avec les mêmes musiciens qui avaient été responsables de tant de succès du rock'n'roll. Mais ce n'est pas Sam Cooke qui l'a fait, c'est Del Cooke qui l'a fait. Sam était encore membre des Soul Stirrer à l'époque, et s'il voulait devenir une star, il craignait également qu'en enregistrant de la musique profane sous son propre nom, il ne nuise à sa carrière de chanteur de gospel, sans nécessairement obtenir une meilleure carrière pour la remplacer. La décision a donc été prise de sortir le single sous le nom de Dale Cooke, et de conserver ainsi une certaine crédibilité. Si nécessaire, il pouvait dire que Dale était le frère de Sam, car il était assez connu que Sam venait d'une famille de chanteurs où il avait beaucoup de frères. Et en effet, le frère de Sam, LC, dont le nom était les initiales LC, a eu plus tard un petit succès en tant que chanteur lui-même, dans un style très proche de celui de Sam. Pour son premier enregistrement profane, ils ont décidé d'enregistrer une nouvelle version d'une chanson gospel que Cooke avait enregistrée avec les Soul Stirrer, Wonderful.
Wonderful, God is so wonderful, He's wonderful, God, He's so wonderful. The Lord is my shepherd, He's my guide. Whatever I need, the Lord will provide. And praise my God's name, I know He's so wonderful.
Une réécriture rapide plus tard, cette chanson est devenue à la place Lovable.
Lovable, my girl. She's lovable, she's lovable, my
She's so lovable. Candy sweet and honey too. There's not another quite as sweet as you.
À l'époque de la session d'enregistrement de Dale Cook, le frère de Sam, Elsie, s'est rendu à Memphis avec son propre groupe, où ils apparurent en bas de l'affiche d'un spectacle de Noël de charité au profit de la jeunesse noire démunie. L'affiche du spectacle était presque entièrement noire, des gens comme Ray Charles, B.B. King, Rufus Thomas, etc. Mais Elvis Presley est apparu brièvement pour monter sur scène, saluer la foule et dire quelques mots. Le colonel ne lui permettait pas de se produire sans être payé, mais l'autorisait à faire une apparition. Et Elvis voulait soutenir la communauté noire de Memphis. Dans les coulisses, Elvis est heureux de rencontrer tous les artistes, mais lorsqu'il apprend que Elsie est le frère de Sam, il passe 20 bonnes minutes à lui dire à quel point Sam est génial et combien il admire sa façon de chanter avec les Soul Stirrers. Sam Cooke avait une voix si caractéristique que, bien que le single soit sorti sous le nom de Dale Cooke, les DJ qui le passaient le présentaient très souvent comme Dale Sam Cooke. Et quand il a commencé à demander aux Soul Stirrers s'ils allaient chanter Lovable dans leur spectacle, la sauce a commencé à tourner. Sam a commencé à avoir des doutes sur le fait que cette évolution vers un style pop était vraiment une bonne idée. Et il est resté avec les Soul Stirrers pour le moment. Bien qu'on puisse remarquer que des chansons comme Mean Old World pourraient facilement être reconfigurées en chansons profanes, et non qu'une quantité minimale de contenu religieux.
This is a mean old world to live in all, all by yourself. This is a mean old world to live in all by yourself. Oh, yes it is.
Mais à peine une semaine après les sessions qui a produit Mean Old World, Sam envoyait à Bums Blackwell des démos de nouvelles chansons pop qu'il avait écrites et qu'il pensait que Blackwell serait intéressé à produire. Sam Cooke allait traiter les Soul Stirrers de la même façon qu'il avait traité les Highway QC. Cooke s'envole pour Los Angeles pour rencontrer Blackwell et Clifton White, un musicien qui avait été pendant longtemps le guitariste des Mills Brothers, mais qui avait récemment quitté le groupe et commencé à travailler avec Blackwell en tant que musicien de session. White n'était pas du tout impressionné par Cooke. Il pensait que la nouvelle chanson que Cooke leur avait chantée, You Send Me, n'était qu'une répétition de la même chose encore et encore et encore. Hartroop les aide à réduire le choix des chansons à quatre. Roop avait des idées très particulières sur ce qui faisait un disque commercial. Par exemple, un disque devait durer exactement 2 minutes 20 secondes. Et les choix finaux pour la session ont été faits en tenant compte de ces critères de Roop. Les chansons choisies sont Summertime, You Send Me, une autre chanson que Sam a écrite et qui s'intitule « You Were Made For Me » et « Things You Do To Me », écrite par un jeune homme que Bums Blackwell vient d'engager comme assistant, Sonny Bono, qu'on retrouvera plus tard avec Cher. La session d'enregistrement aurait dû être tout à fait banale. Blackwell l'a supervisée, et bien que la session se soit déroulée à Los Angeles, presque tout le monde était un vétéran de la Nouvelle-Orléans. Outre Cliff White à la guitare, il y avait René Hall, un guitariste de la Nouvelle-Orléans, qui avait récemment quitté Billy Ward and the Dominoes et qui faisait office d'arrangeur instrumental. Harold Baptiste, un saxophoniste de la Nouvelle-Orléans, que Bums avait pris sous son aile et qui ne jouait pas sur la session, mais qui a fini par écrire les arrangements vocaux pour les choristes. Earl Palmer, qui venait de quitter la Nouvelle-Orléans pour s'installer à Los Angeles et qui commençait à s'y faire un nom en tant que musicien de studio, après avoir joué pour Little Richard, Lloyd Price, Fats Domino, dans les studios de Cosimo Matassa. Pour finir, Ted Brinson, le seul natif de Los Angeles, à la basse. Brinson jouait régulièrement dans les sessions de Specialty et avait des liens avec presque tous les musiciens de R&B de Los Angeles, à tel point que c'est dans son garage que Earth Angel, des Penguins, a été enregistré. Les choristes étaient les Lee Gotch Singers, un groupe vocal blanc qui comptait parmi les chanteurs les plus demandés de Los Angeles. Cette session aura dû être simple, et elle l'a été, jusqu'à ce que Art Roop arrive juste après l'enregistrement de You Send Me.
Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Honest you do, honest you do, honest.
Roop est horrifié. Horrifié que Bumps et Baptiste aient mis des choristes blancs derrière la voix de Cook. Ils essayaient, selon Roop, de faire sonner Sam Cooke comme Billy Ward and the Dominoes au mieux et comme un orchestre symphonique au pire. La référence à Billy Ward était due au fait que Ronnie Hall avait récemment arrangé la version de Stardust pour les Dominoes.
And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're all apart. You wander down the lane and far, far away, leaving me a song that will not die. Love is now the star.
Et force est de reconnaître que la nouvelle version de Summertime avait un peu le même feeling.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and cotton is high.
Si Sam Cooke devait enregistrer pour Specialty, il n'aurait pas de chanteur blanc pour l'accompagner. Roop voulait de la musique noire, 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 pas quelque chose qui essayait d'être blanc. Et le fait que lui, un homme blanc, dise à une pièce pleine de musiciens noirs ce qui comptait comme musique noire, c'était vraiment drôle pour Bumps Blackwell. Pire encore que la blancheur des chanteurs, c'est que certains d'entre eux sont des femmes. Roop et Blackwell avaient déjà eu une grosse dispute à propos de Read It Up de Little Richard. Lorsqu'ils avaient accepté d'enregistrer cette chanson, Blackwell avait travaillé à l'avance sur un arrangement qui convenait à Roop, un arrangement basé sur des triolets de piano. Mais ensuite, lorsqu'ils étaient dans l'avion pour se rendre à la session, Blackwell avait eu une autre idée, baser la chanson sur un motif de batterie particulier.
Well,
Roop avait failli renvoyer Blackwell pour cela et n'avait cédé que lorsque le disque était devenu un énorme succès. Maintenant, au lieu de mettre un groupe de gospel noir derrière Cook comme convenu, Blackwell lui a désobéi une seconde fois et a mis des chanteurs blancs, y compris des femmes, derrière lui. Roop a décidé que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Blackwell devait partir. Il était également convaincu que Sam Cooke ne cherchait qu'à gagner de l'argent. Car lorsque Cook a découvert que son contrat solo ne lui rapportait qu'un tiers des royalties que les Soul Stirrers recevaient en tant que groupe, il a commencé à faire pression pour obtenir une plus grande part de l'argent. Roop n'aimait pas ce genre de cupidité, en tout cas pas de la part des artistes. Quand c'était la sienne, ça allait. Pourquoi devrait-il payer l'artiste plus d'un cent par disque vendu? Mais il devait toujours beaucoup d'argent à Blackwell. Ils sont finalement parvenus à un accord. Blackwell quittait Specialty en emmenant Sam Cooke et les enregistrements existants de Cooke avec lui, puisqu'il était tellement convaincu qu'ils allaient être un succès. Roop conservera les droits d'édition de toutes les chansons écrites par Sam et aura une option sur 8 autres enregistrements de Sam Cooke à l'avenir. Mais Cooke et Blackwell sont libres d'emporter You Send Me, Summertime et le reste à un nouveau label qui veut bien les sortir, le label Keen. Pendant qu'ils attendaient que Keane se mette en place, Sam s'est fait une place sur la scène musicale de Central Avenue, fréquentant Gaynell Hodge, Jesse Blavin, Dootsie Williams, Gucci Rene, Joe Dolphin et tous les autres membres de la communauté R&B de Los Angeles. Pendant ce temps, les Soul Stirrers font appel à Johnny Taylor, l'homme qui avait remplacé Sam dans les Highway QC, pour le remplacer dans les Stirrers. Bien que Sam n'ait pas fait partie du groupe, pendant les quelques années suivantes, il sera régulièrement impliqué avec eux, les aidant lors des sessions d'enregistrement, les produisant et plus encore. Lorsque le single est sorti, tout le monde pensait que Summertime serait le tube, mais You Send Me s'est rapidement retrouvé sur toutes les ondes et est devenu un succès massif.
At first I thought it was infatuation, but ooh, it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you
and take you home. Whoa, whoa. You send me, I know you send me. It's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. I know, I know, I know. You send me. I know you send me. Oh, oh, you send me. Honest.
Plusieurs reprises sont apparues presque immédiatement. Sam et Bumps n'ont pas apprécié la version de Jesse Belvin.
Darling, you send me. I know you.
Ils n'ont pas apprécié non plus la version de Cornel Gunter.
Darling, you send me. I know you.
Ils étaient amis et collègues, et bonne chance à eux s'ils obtenaient un succès avec cette chanson. Et de toute façon, ils savaient que la version de Sam était meilleure, car ce à quoi ils s'opposaient, c'était à la reprise blanche, tellement blanche, de Teresa Brewer. Et même si sa version était moins ressemblante que les autres versions de LA R&B, elle était plus offensante pour eux. Elle copiait les mêmes « wow, wow, wow » de Sam. Elle n'était rien d'autre qu'une voleuse selon Blackwell. Et sa version a figuré dans les hit parades et a même atteint le top 10. Heureusement pour eux, la version de Sam est devenue numéro 1 à la fois dans les charts R&B et les charts pop, malgré une apparition absolument catastrophique au Ed Sullivan Show, qui l'a accidentellement coupé en plein milieu d'une chanson. Mais il y avait encore un problème avec Art Roop. Sam était toujours sous contrat avec la société de Roop en tant qu'auteur-compositeur. Il avait donc mis You Send Me au nom de son frère, Elsie, de sorte que Roop ne recevait pas de royalties. Roop a entamé une action en justice contre lui, et pendant ce temps, il a pris une démo que Sam avait enregistrée, I Come Running Back to You, et a demandé à Ronnie Hall et au chanteur de Lee Gutch, ceux-là même qu'il avait tant méprisé, d'enregistrer des overdubs pour que cela ressemble le plus possible à You Send Me.
Folks say that you found someone new to do the things I used to do for you. Just call my name, I'm not ashamed. I'll come running back to you. Can't sleep at night.
En représailles, Bumps Blackwell a pris une chanson qu'il avait enregistrée des mois plus tôt avec Little Richard, mais qui n'était toujours pas sortie, et a demandé au duo de spécialistes Dunn and Dewey de fournir un support instrumental à un groupe vocal appelé The Valiants, et l'a sorti sur Keen.
Well,
Specialty a dû sortir en urgence la version de Little Richard pour s'assurer qu'elle devienne un hit. Un coup dur pour eux, étant donné qu'ils essayaient de distiller au public le peu d'enregistrements de Little Richard qui leur restait. Alors que l'année 1957 touche à sa fin, Sam Cooke est au sommet du monde. Mais les germes de sa chute sont déjà en place. Il contrariait toutes les bonnes personnes avec son désir de contrôler sa propre carrière et il blessait également beaucoup d'autres personnes en cours de route. Des gens qui l'avaient aidé, comme les Highway QC et les Soul Stirrers, et surtout des femmes. Il était sur le point de divorcer de sa première femme et il avait engendré une série d'enfants avec différentes femmes, qu'il refusait toutes de reconnaître ou de soutenir. Il reprenait les maximes de son père sur le fait que on ne s'occupe que de soi et les appliquait à tous les aspects de sa vie, sans se soucier de qui cela pouvait bien blesser. Son talent et son charme étaient tels que même les gens qu'il blessait finissaient par le défendre. Dans le prochain épisode, où nous croiserons Sam Cooke, nous le verrons atteindre des sommets artistiques toujours plus élevés, mais nous verrons aussi les dommages qu'il a causés à lui-même et aux autres. Parce que l'histoire de Sam Cooke va devenir très, très, très désagréable.
I hear something saying.
Well, don't you know
that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying.
Note de bas de page. La source principale de cet épisode est Dream Boogie, The Triumph of Sam Cooke de Peter Guralnick. Comme tous les ouvrages de Guralnick, c'est un livre essentiel et si vous êtes un tant soit peu intéressé par le sujet, il faut le lire. Bien sûr, je ne peux que remercier le podcast anglais L'Histoire du Rock en 500 chansons, qui est une réelle bible. La compilation Portrait of a Legend est la meilleure compilation de musique de Sam Cooke que vous pouvez trouver si vous ne connaissez pas son nom.
Till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman, whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, my, 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 my. My work is so hard, give me water, I'm thirsty, my. My work is so hard, oh, oh, my. Bye.